Émission en jase, 13h31. Si vous n'êtes pas habitué à l'émission, ben sachez qu'on est toujours de même. Ça roule, c'est chapeau de roue le midi à Boulevard 102.1. On traite de tous les sujets d'actualité pertinents pour vous, soit local, provincial, fédéral ou même international. 418-971-1021 pour réagir. Et d'ailleurs, on se lance immédiatement en manchette. Pascal, on a des nouvelles concernant un accident qu'il y avait eu. C'est JP Metal, c'est bien ça? Oui,
c'est en 2025, à l'été 2025. C'est un accident tragique. Hein? Ça avait coûté la vie à un employé de l'entreprise, comme tu dis, JP Metal. C'est ici, à Québec. Ce qu'on constate, c'est que ça aurait pu être évité, notamment si les opérations de chargement puis de déchargement des appareils de levage sur le dit plateau là, d'une dépanneuse là, avaient été mieux planifiées. Puis ça, c'est les conclusions de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. On la connaît comme la CNSST. Et là, on a eu obligation d'enquêter, veut pas là-dedans. T'sais. C'est l'organisme responsable de l'application des lois du travail au Québec. Puis le rapport a été publié aujourd'hui sur ce décès-là d'un opérateur de plateforme élévatrice. Donc, plus précisément, c'était le 29 août 2025 où c'est arrivé que l'homme de 58 ans a subi des blessures mortelles. Il avait été projeté au sol, rappelle-toi, d'une hauteur de 1,18 mètres. C'est la plateforme élévatrice qui l'opérait. Elle était sur le plateau de la dépanneuse et il avait basculé dans le vide. Il avait été transporté à l'hôpital, puis c'est là qu'on avait constaté son décès. On dit qu'on a relevé des lacunes importantes dans la planification des activités de ce chargement-là et déchargement. Puis c'est ça qui a entraîné des déplacements dangereux sur le plateau en bordure du vide. C'est sûr qu'on a des recommandations aussi. On dit qu'il faut mettre en place des méthodes de travail adaptées, un plan de chargement, déchargement qui tient compte des caractéristiques de la charge, de la remorque, des appareils de manutention utilisés et du lieu de travail. C'est comme si on soulignait le fait que ça n'avait pas été adapté à ce qu'ils étaient en train de faire. On souligne aussi l'importance de s'assurer que les travailleurs sont adéquatement formés pour opérer les appareils de levage et qu'ils sont informés des risques associés à ces activités-là. T'sais, c'est quand même absolument triste là, de voir que malheureusement, on semble y avoir eu, ce n'est pas le mot négligence que l'on utilise, qu'il y a quand même une possibilité que ça aurait pu être évité. Là.
En effet, tu as entièrement raison. On va suivre le tout. Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur à l'Institut Cardus, est avec nous pour nous parler de financement des organismes communautaires parce qu'on est dans le 10 jours du communautaire à bout. Les gens sont fatigués, sont tannés d'être le filet social et de ne pas être appuyés. Étienne-Alexandre, comment ça va?
Ça va très bien, vous autres?
Ça va super bien. Étienne-Alexandre, j'ai lu le communiqué, j'ai lu une très bonne proportion du rapport et je dois te dire que la première chose qui m'a frappé, puis je repensais à mes 5 années de directeur de financement au Patro-Charlebourg, c'est le fait que les gens n'ont pas la fibre philanthropique au Québec.
Ouais. Bien, c'est vrai que c'est dommage, mais cela dit, effectivement, quand on regarde les chiffres, là, je pense que ça a dû te frapper toi aussi, quand tu as vu l'étude, on regarde le don médian au Québec, 160 $ par donateur, selon Statistique Canada, versus plus de 400 $ dans toutes les autres provinces. Donc, fait qu'on voit qu'on a un petit écart à rattraper là-dessus.
Mais c'est-tu parce qu'on a le portefeuille trop serré? Puis tu sais, moi, je fais tout le temps clin d'œil à ceux qui chialent sur les riches. Sans les riches au Québec, là, on a bien moins de dépenses caritatives, on a bien moins d'économies qui roule, on a bien moins. Mais c'est eux aussi qui font des dons pour beaucoup, là.
Bien, exactement. C'est un très bon point. Puis c'est pour ça que l'angle de l'étude en général, puis bon, ça a bien à donner qu'on le sorte cette semaine parce que la question du financement du secteur communautaire des organismes à but non lucratif est un peu à l'avant de la scène, justement, à cause de cette mobilisation-là. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que, oui, le gouvernement peut avoir un rôle à jouer, on conteste pas ça, mais il peut pas être le seul acteur à bord. Ça prend aussi des gens dans la société qui s'impliquent pour ça. Et ce qui nous inquiète un peu, c'est quand on voit dans certains organismes ou certains représentants d'organismes qu'on en a un peu contre la philanthropie, qu'on trouve que ça doit être seulement le gouvernement qui distribue l'argent aux communautaires, comme si ben, les fondations, les entreprises, les gens qui sont en moyenne, qui ont envie de contribuer, ou même les gens comme vous et moi, qui ont envie de s'investir parce qu'ils croient à la mission d'un organisme, c'est comme si c'était pas bienvenu, parce qu'on juge que c'est arbitraire, alors que le gouvernement, lui, serait complètement neutre, puis que si c'est un bureaucrate, par exemple, au Complexe G qui décide qu'est-ce qui est de la solidarité, qu'est-ce qui en est pas, ça, c'est pas grave. Fait que nous, notre point, c'est de dire, en raison de cette spécificité-là, hein, du secteur communautaire, qui est ni une entreprise pour faire du profit, ni une branche du gouvernement, c'est important d'avoir un financement qui est équilibré, qui vient de plusieurs sources et qui vient aussi de gens de gens en chair et en os, de pas ouais. juste du ministère.
Ben, je suis d'accord avec toi parce que vois-tu, moi, dans la famille des patrons d'où je proviens, c'est 40% qui vient du gouvernement, mais 60% qui vient des poches privées. Puis ça, c'était toujours un haut taux de satisfaction chez nous parce qu'on disait, vous voyez les efforts qu'on fait. Alors, on se sentait légitimé de dire au gouvernement, hey, tu me donnerais-tu un petit 2 000 de plus parce que, check, pour le projet de 100 000, je suis allé en chercher 90 000 par moi-même. T'sais? Donc,
ben oui.
c'est un peu notre façon qu'on avait de procéder.
Là. Absolument. Puis, à l'inverse, d'avoir cette autonomie-là aussi, ça fait que le jour où le gouvernement serait arrivé avec quelque chose que tu n'aurais pas aimé, j'imagine, mais c'est pas comme si c'était 90 % de ton financement.
Exactement.
Puis là, tu es un peu prêt à gorge si tu dis, ouais, ben ouais. là, si tu fais pas ce que je veux, final bâton. Alors que tu peux dire, ben là, OK, non, mais on a d'autres sources et tout. Puis, tu sais, c'est un peu la même chose. Nous, à l'Institut Cardus, on est financé d'abord 100% par des fonds privés.
Mm-hmm.
Puis d'ailleurs, notamment grâce au crédit d'impôt pour charité. Puis ça, c'est important de garder
c'est
ça. Puis c'est drôle parce que j'avais une petite prise de bec sur les réseaux avec des gens de l'IRIS hein, qui, eux, sont beaucoup plus un modèle tout à l'État puis qui disaient, ah oui, mais les crédits d'impôt pour charité, c'est comme des subventions. On disait, attention, c'est pas pareil du tout.
Non.
Parce que c'est la personne qui décide où va son don.
Exactement.
C'est un appui aux gens qui veulent donner. C'est un multiplicateur pour ceux qui ont envie d'aider.
Je suis très d'accord
avec toi.
Mais c'est
pas une subvention.
Puis l'IRIS, puis là, je vais me permettre une critique, que ça soit IRIS, que ça soit CIUS, sont pour un 100% parce que c'est pas une cote là-dedans, eux autres, là, veulent pas. Tu sais, moi, là, j'en revenais pas des subventions que j'avais qui passent par le CIUS. Puis là, il y a 8 personnes au CIUS qui ont travaillé sur le programme de formation. Hey, c'est des coûts en crime, en administration. C'est fou, ça.
Bien, c'est ça. Puis moi, honnêtement, je pense qu'il y aurait... C'est dur d'en discuter hein, sur un plateau comme ça parce qu'il y a tellement de complications dans le,
ben oui.
dans le dossier. Tu sais, mettons, moi, je fais une étude comme celle que j'ai faite. Je peux voir l'enveloppe globale. On peut aussi voir dans le détail les milliers d'organismes à qui c'est allé. Mais en même temps, quand moi, comme citoyen, là, je paye des impôts, mais il y a, comme le mentionnait les représentants du mouvement, tout le monde en parle, il y a peut-être 1% de ces impôts-là qui vont dans l'enveloppe, qui vont ensuite aux communautaires. Puis après ça, qui décide sur l'enveloppe de 2 milliards, qu'est-ce qui va aller où? Bien là, bonne chance pour le savoir. C'est pas de la solidarité directe. Là. Si, mettons, je veux encourager la banque alimentaire de mon quartier ou le patron de mon coin, bien mieux de donner un chèque. Puis à ce moment-là, si le gouvernement vient m'appuyer avec un crédit d'impôt pour charité, puis ça, d'ailleurs, on pourrait penser à les augmenter si on voulait améliorer justement la charité, donner envie aux gens de le faire.
Je suis d'accord.
Puis là, je peux voir que j'ai un impact. Mm-hmm. Là, c'est des gens que je connais, dont je connais la mission, où je peux m'investir moi aussi, aller faire des heures de bénévolat une fois de temps en temps pour aider parce que je le sais, que j'ai un sentiment d'appartenance. Puis au final, la vraie solidarité, c'est ça.
Il y a beaucoup de choses là-dedans. Je vais essayer d'y aller rapidement en rafale. La première, si on ne veut pas être taxé et imposé comme on le voit, par contre, à Québec dans les dernières années, c'est sûr qu'il faut amener notre cerveau à se dire qu'il faut donner un peu hein, de notre paye et tout ça.
Oui.
La deuxième chose, il ne faudrait pas que les politiciens en profitent, par exemple, parce que si on commence à donner aux communautaires, puis en plus, ils continuent de taxer et imposer, s'il y a une augmentation, puis ils sont capables de la constater, peut-être laisser un petit lousse au niveau des poches ou encore des avancées fiscales. L'autre chose, tu commences à avoir un réel avantage sur tes dons après 250 $ de dons annuellement. On pourrait-tu réduire ça automatiquement que tu donnes à partir du premier dollar que
en
tu
effet.
Donnes? Tu as des avantages fiscaux qui sont associés sur ton rapport d'impôt, par exemple. Parce que 250, pour beaucoup de monde, même annuellement, c'est beaucoup d'argent.
Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis ça va être dans les futurs papiers parce que c'est le début d'une série qu'on fait à l'Institut Cardus sur le secteur caritatif. Parce que nous, on pense que c'est fondamental dans la société. Puis on va regarder aussi les modèles de financement quand on veut inciter les gens à donner à quelque chose. Parce que moi, par exemple, j'ai regardé pour les partis politiques. Okay? Au Québec, par exemple, on sait le don il est très limité pour les partis politiques. On ne peut pas donner plus que 100 $ pour toutes sortes de questions d'intégrité. Cela dit, les premiers 20 000 qu'un parti va chercher, par exemple, pour chaque dollar que les gens, les citoyens comme nous donnent, le gouvernement donne 2,5 piastres pour 1 $. Fait que ça, c'est un incitatif. Et pour les partis fédéraux, par exemple, quand on fait un don pour le plus petit tiers de contribution, on se fait rembourser presque les 3/4. Fait qu'à ce moment-là, tu as toutes sortes d'effets de multiplicateurs que tu peux faire pour dire, OK, oui, le gouvernement, il garde une implication, mais c'est pas juste le fonctionnaire, justement, qui va décider quel organisme est bon, quel organisme est pas bon. Ça peut aussi partir des gens qui sont touchés par une mission, qui contribuent, puis de dire, oui, bon, même si on n'a pas tant de moyens que ça, de dire, hey, moi, j'ai fait une action d'action pour cet organisme-là. Donc, le gouvernement m'a appuyé, puis ça a suivi, en quelque sorte, ma volonté à moi comme citoyen. Puis là, je suis plus impliqué dans le processus.
T'sais. Maintenant, je me fais une critique envers le gouvernement. Parce que tu parles dans ton étude de hausse du financement du gouvernement, puis en effet, il y a une hausse. C'est sûr qu'il y a de plus en plus de besoins. On a juste à regarder nos banques alimentaires qui débordent. Cependant, la problématique que je vivais, moi, dans le financement des organismes, c'est que on essaye toujours que les organismes se réinventent. On ne donne pas assez d'argent à la mission. Donc là, je crée un nouveau projet. Exemple, pour des adolescents qui sont à risque de devenir des criminels. Puis là, je finançais à 75% la première année, 50 la deuxième, 25 la troisième. Puis après ça, organise-toi. Mais un coup que le programme est lancé, tu peux pas vraiment le fermer. Mais là, c'est toujours en plus. En plus et en plus. Et là, compte tenu que la philanthropie individuelle diminue, ben les organismes sont pris avec cette pression-là. C'est un peu pour ça le mouvement communautaire est à bout.
Ben oui. Puis ça, je le comprends. Après, c'est comment dire, il n'y a jamais de solution idéale. Puis c'est sûr que quand on dépend du gouvernement, ben c'est leurs contraintes qui viennent avec ça. Puis des fois, ça, c'est une autre affaire qu'il ne faut pas oublier. Il y a plus de 50 000 OBNL au Québec. Combien reçoivent du financement à la mission? 5 000.
Oui, c'est ça, pas beaucoup.
Fait qu'il y a toujours un phénomène de choisir un gagnant. Puis si t'es un des malheureux organismes qui n'est pas dans les priorités du moment, bien là, tough luck, comme on dit en chinois.
Puis le problème aussi, puis je parle par expérience avec le Patro, c'est que le Patro, ça offre plein de services. De la banque alimentaire à un CPE. Mais tu peux juste te qualifier à un ministère. Donc nous, on était qualifiés au ministère du loisir. Mais ma banque alimentaire, j'ai 0$ pour ça. Fait qu'il faut que tout j'aille chercher au privé. Mais le problème, c'est qu'avec l'augmentation qu'il y a, ben, à un moment donné, tu te dis, je ne vais pas laisser personne dans la rue. Mais il y a une capacité à payer aussi d'entreprises privées qui devient limitée. Donc, c'est pas facile.
Non, c'est ça. Il n'y a pas de solution parfaite. Puis c'est pour ça que, honnêtement, moi, je pense que ce qu'on devrait viser, c'est le financement le plus diversifié possible. Être capable d'avoir toutes sortes de sources. Puis c'est pour ça que, tu vois, le sens de l'étude, c'est pas de dire le gouvernement devrait sortir au complet. Ça serait impensable. Puis surtout, il faut le dire, au Québec, c'est un plus petit marché. Puis bon, effectivement, les habitudes philanthropiques sont pas les mêmes, mais moi, je pense que, comment dire, il n'y a rien de fatalité. Puis on peut aussi tourner de bord. Puis ça, on n'en a pas parlé encore, mais quand on regarde la tendance, puis c'est la tendance qui nous inquiète surtout.
Ouais, vas-y, donc, la tendance.
Quand tu regardes, en 1997, 23% des Québécois déclaraient un don de charité sur leur rapport d'impôt. Ça, 23%, c'est plus que les super riches, là. C'est quasiment une personne sur quatre. OK. Puis là, on est en 2024, dernière statistique disponible de StatCan, on est juste à 17,1%. Fait que là, c'est une baisse du tiers des gens qui en faisaient avant.
Puis là, la tendance continue.
Plus. Exactement. Puis ça, c'est préoccupant. Puis au Canada anglais aussi, le pourcentage de personnes qui donnent est en baisse. Fait que là, c'est une tendance lourde. Puis ça, je pense qu'il faut aussi se poser la question comme société, parce qu'à un moment donné, c'est pas juste le gouvernement qui peut tout faire. T'sais, nous, comme citoyens, c'est quoi la partie qu'on a dans la société? À quel point on sent qu'on est responsable les uns les autres? À quel point on sent que oui, on a quelque chose à voir avec ce qui se passe dans notre quartier, dans notre ville, puis qu'on a une part de responsabilité là-dedans, sans dire que ça tombe tout sur nos épaules? Mais de dire, hey, je vais faire ma part, moi aussi. Puis ça, ça contribue, puis ça fait partie aussi d'une culture de la solidarité, d'une culture de la charité. On ne peut pas seulement sous-traiter ça au gouvernement puis penser qu'il n'y aura pas d'impact sur notre vie citoyenne.
En effet. En terminant, justement, comment qu'on fait pour solliciter ça? Hey, moi, j'ai travaillé là-dessus pendant 5 ans, puis c'est tough. C'est difficile. Pascal parlait du coût de la vie tantôt, justement, qui vient beaucoup...
Impacter les dons,
vient,
c'est sûr.
Exactement, qui vient beaucoup impacter les dons.
T'as presque l'impression de faire un don à toi-même.
Au
lieu de le faire à quelqu'un d'autre.
C'est ça. On fait comment?
Bien ça, moi, je pense qu'on doit... On doit arriver avec des nouvelles politiques pour encadrer la charité. T'sais, par exemple, on parlait tout à l'heure de la question des dons. Puis tu sais, mettons, là, je lance des affaires, là. Mais
vas-y.
Supposons que mon premier 100$ que je donne à n'importe quel organisme, 100% de retour d'impôt.
Ouais.
Qui le ferait pas?
En effet.
Pour vrai.
Mais c'est pour ça que j'aborde le 250$.
Ben oui, mais c'est une très juste observation. Mais parce qu'à partir du moment où on le sait...
Je comprends pas pourquoi ça, c'est pas... C'est encourageant. C'est encourageant.
Ben
tu sais directement que tu donnes.
Exactement. Puis moi, je pense que le fait, effectivement, de savoir à qui on donne, puis d'être un peu partie prenante de la mission de l'organisme avec ça, ça change ta manière de penser. Oui. Si tu contribues à une institution, puis là, toi, tu le sais, tu as travaillé là-dedans. Moi aussi, je travaille dans un organisme à but non lucratif. Quand tu fais partie d'un organisme, tu fais partie d'une communauté aussi. Tu as des liens avec tes donateurs, des gens qui viennent aux activités, qui sont intéressés par ce que tu fais, qui vont t'écrire, qui vont dire « Hey, j'ai vu, tu as fait telle activité, j'ai trouvé ça tellement le fun, continuez, puis tout. » Tu sais, il y a une expérience de communauté. Ouais. C'est pas pour rien qu'on appelle ça communautaire aussi.
Faut recréer nos communautés, tu as raison. Puis je termine là-dessus. J'ai déjà vu un beau programme aussi gouvernemental gouvernement avec Québec Philanthrope. Si tu donnais, exemple, 100 $ pour un programme dans un orchestre communautaire en éducation, Québec Philanthrope mettait 100 $, puis le gouvernement mettait 100 $, fait que ça devient 300 $.
Ben exactement.
C'est le genre d'initiative comme ça.
Moi, je pense
qu'il
y a des fonds comme ça, où, par exemple, le gouvernement va égaler ta mise, c'est super intéressant aussi, parce que tu sais que t'as un impact, c'est toi qui choisis où ton argent va, puis en plus, c'est décuplé, puis on t'encourage à le faire. Ça, c'est toutes des initiatives super le fun que je pense qu'il faudrait repenser aussi, au lieu de juste dire on va grandir l'enveloppe qui est gérée par le ministère. T'sais.
Ça tombe bien, on s'en va en campagne électorale. On pourra mettre un peu de pression sur nos politiciens. Étienne Alexandre, c'est toujours un bonheur quand tu viens nous voir. On a des discussions franches, sensées. On tente de créer un monde meilleur, j'adore. Merci beaucoup d'être passé.
Toutes les raisons sont bonnes pour venir à Boulevard.
Ouais, hésite pas, tu viens nous voir n'importe quand. Donc, ça va nous faire extrêmement plaisir. Courte pause à Boulevard 101, on vous revient avec l'essentiel de l'actualité pour terminer cette émission. Je vais vous parler un peu du Canadien contre les Hurricanes de la Caroline ce soir au Centre Bell.